Et oui, c'est le retour de notre Pascal CV aujourd'hui. Retour de vacances. Comment ça va, mon ami?
Ça va bien. Ça va cool. Plus reposé que tous ceux qui travaillent à la CAQ, j'ai l'impression.
Ah oui, ça brasse à la CAQ. T'as eu du petit rattrapage à faire. T'es parti. François Legault, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel ont décidé de partir aussi.
Ça s'est un peu passé comme les, entre parenthèses, vacances d'Antonine Iaccarini, notre collaboratrice.
Oui.
T'essaies de décrocher, puis à un moment donné...
Pablo avait décidé qu'il sacrait son camp pendant ses vacances.
Ah, tout est arrivé pendant
qu'elle est tentée. Christian Dubé a dit à François Legault, go, doigt d'honneur, tu m'en referas plus ça. François Legault est parti dès qu'Antonine est revenue. La brasse, finalement, politique québécoise.
Et puis pendant cette semaine-là, je reçois ça, je dis à Max, j'étais bien tranquille avec un petit drink. Puis là, il dit, voyons, ça, il l'a annoncé à 10h, j'avais une heure de plus que vous, où j'étais.
Oui.
Donc, 11h45, c'est une bonne affaire pour un petit drink en vacances. Et puis, pop, François Legault démissionne.
Ouais.
Là, c'est dur de ne pas décrocher parce que nous, on l'a eu en entrevue quelques jours avant le 24 décembre. Tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il réaffirmait corps et âme qu'elle allait se représenter. J'avais le goût de parler en tour. Je me dis, voyons, c'est une stratégie politique. Tu le dis pas tant que tu n'es pas sûr que tu quittes finalement. Il y a plein de choses à comprendre de tout ça, mais surtout, écoute, un homme à la mer, puis l'homme à la mer, c'est le parti de la CAQ parce que qui va réussir à reprendre le bateau puis à aller de l'avant avec ça? Ouh.
On va justement parler dans le caucus avec Antonine Iaccarini, à savoir si c'est une bonne chose pour le futur chef que ça parte comme ça à grande porte à chaque jour. Qui va être le prochain ou la prochaine demain? C'est à se poser la question. 418-971-1021 pour parler avec nous, interagir sur ce qu'on dit. Je salue Carl qui est présent. Bon midi, mon Carl. Il est en route pour Moncton dans son camion. Let's go, mon Carl. On lâche pas. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments qui se retrouvent à cet endroit. Vous pouvez également nous écouter via la web radio, notre application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. Les haut-parleurs intelligents, vous dites écoutez BLVD. L'application en passant, là, moi, là, je suis monté à Rivière-du-Loup en fin de semaine en tournoi de hockey. Et comme sur le fun, je descendais hier sur la route avec colosse dans mes oreilles grâce à l'application. J'étais pas obligé d'écouter la radio de Charlevoix ou c'était le bingo, j'ai bien ri. J'aime ça. J'aime ça putainer ces petites stations même de région. Puis hier matin, c'était le bingo. E16.
Hey, ça... Les genres de... J'appelle ça des foires, je sais pas comment le dire à la radio, mais un genre de vente de garage à la radio.
Ah, c'est ça.
Dans les régions, dans des radios communautaires, ça se fait encore du genre divan à vendre, 250 $ à tel endroit. Je suis fascinée, là. C'est l'ancien parvis de l'église, mais sur des ondes radio.
C'est ça.
Quand tu veux t'échapper... Puis toutes les publicités sont exceptionnelles aussi.
Oui, E16, mais là, on n'avait pas notre carte de bingo, moi pis nous, on ne pouvait pas gagner, on était vraiment déçus. Twitch.tv, /BLVD, /FM, venez nous voir, venez voir nos belles faces. On a remplacé Mathias le Barbu par Pascal. Mais hey, la semaine passée, on a battu pratiquement des records sur Twitch.
Ah oui?
Oui, parce que j'arrêtais pas de dire au monde. Je disais, là, c'est pas correct. Quand c'est des gars en ondes, il y a moins de gens sur Twitch. Fait que là, les gens ont eu pitié de moi.
Tu voulais équilibrer le tout.
Je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. Et également, je vous rappelle, abonnez-vous à notre page YouTube, notamment le Pit Stop qui se retrouve, le Pit Stop de ce matin qui se retrouve sur notre page YouTube et nos différents podcasts. Pascal CV, ça n'a pas changé dans le caucus d'Antonine Iaccarini, qui est revenu la semaine dernière. Mais avant ça, fais-nous donc 3-4 nouvelles, voir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité qu'on doit savoir.
Oui, parce qu'il n'y a pas juste la politique qui attire notre attention. Cet homme-là aussi a réattiré mon attention. Je pensais déjà l'avoir vu dans l'actualité, c'est le cas. Je vous parle d'agression sexuelle ici, à Québec. C'est un massothérapeute qui a été arrêté et à nouveau parce qu'il était déjà accusé en octobre dernier pour des crimes qui étaient similaires. Il s'appelle Bruno Canuel, 68 ans, et il a été arrêté ce matin par le service de police de la ville de Québec. Donc, à nouveau arrêté en lien avec une douzaine d'autres agressions sexuelles présumées. Ouf. C'est dans le secteur de Lac-Saint-Charles qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrestation, état de 11 autres chefs d'accusation d'agression sexuelle. Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec, donc dans la journée. C'est ce qu'on a comme information. Et je vous rappelle que l'enquête du corps de police a été lancée l'été dernier. Plusieurs personnes avaient signalé le comportement du gars qui pratiquait la massothérapie depuis sa résidence. Et c'est pourquoi on vous demande toujours, si vous avez de l'information, de contacter les policiers. Mais en mai dernier, on publiait un grand dossier sur ce sujet-là de gestes à caractère sexuel qui était posé par de nombreux massothérapeutes qui se retrouvent ensuite devant les tribunaux. Et cet homme-là en faisait partie. Donc, nous nouvelle arrestation pour Bruno Canuel, 68 ans, de la région de Québec. Sonia Lebel a renoncé à se porter candidate à la succession de Legault, va devoir quitter la vie politique, devoir, ben, c'est son choix, et elle l'a annoncé aujourd'hui. Elle renonce du même titre à se porter candidate à la succession de François Legault. C'était quelqu'un qui était vu comme étant une relance possible, en fait, pour le dit parti, essayer d'avoir un pilier du gouvernement qui reste et qui soit capable peut-être de faire la course à la chefferie de la CAQ. Mais elle l'a dit, et je cite, « Après mes réflexions et de longues conversations avec ma famille, mes amis, mes collègues, j'en reviens à la conclusion que le temps est venu de me retirer de la vie politique à la fin du présent mandat. » Et là, plusieurs personnes témoignent de sa grandeur en tant qu'humaine, en tant que parcours, sa grandeur de CV. Elle avait une bonne notoriété, vous savez. Elle s'était fait connaître, entre autres, comme la pugnace procureure de la commission Charbonneau. Et ensuite, ben, elle est allée à la politique, nommée ministre de la Justice des Relations canadiennes dès l'arrivée du pouvoir de la CAQ en 2018, ainsi de suite jusqu'à maintenant. On nourrissait peut-être l'espoir pour certains qu'elle brigue justement la direction de la CAQ, ultimement peut-être même accède au poste de première ministre, mais ça sera entre les mains, entre autres, de Christine Charrette qui s'est officiellement présentée, Simon-Jolin Barrette qui ne l'a pas fait encore, mais que certains souhaitent voir se présenter. Mm-hmm. Bernard Drinville, n'a pas encore proposé sa candidature, mais il a salué sa collègue Sonia Lebel pour ses longues années en tant que collègue qu'il trouve émérite dans le dossier. Et je termine sur une nouvelle économique à Québec, du moins, importante à nommer, qui ne fait pas l'actualité encore, mais la Ville de Québec a autorisé la mise en chantier de 5 700 logements en 2025. Donc, c'est une hausse de 80 % par rapport à 2024. En 2024, il y avait 3 774 mises en chantier pour des logements qui avaient été acceptés. Là, je vous rappelle, on est à 5 700. C'est la plus forte croissance au pays parmi les grandes villes canadiennes. Comme quoi, on peut comprendre qu'il s'agit vraiment d'une importance ici dans la ville. Est-ce qu'on va réussir à colmater toutes les brèches, tous les déficits en termes de logements? La réponse est non, mais on veut une avancée. Et le maire de Québec s'est prononcé là-dessus. Il a dit qu'ils ont dépassé cette cible de nouvel objectif, mais aussi souhaitent dépasser les 6 000 logements par année.
Bravo à l'administration de Bruno Marchand, justement, qui continue son bon travail en termes de création de logements, mais surtout, félicitations aux entrepreneurs à Québec, justement, qui croient à la ville et qui veulent la développer davantage. Je pense notamment à la gang des Trudel, là, qui ont plein de projets dans la ville de Québec présentement. En chantier. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus d'Antonin Iaccarini avec un nouveau bed.
J'aime ça.
C'est donc bien bon, hein?
Parce qu'il y avait comme un petit son dans l'ancien. Mais je l'aimais, là, l'ancien. Là, je veux pas chialer.
Mais ça, là, est solide.
Mais il y avait un petit « ouais. Puis des fois, je me disais, hey, t'es dans ton char, ça peut... ouais, mettons que t'écoutais ça fort, ça pourrait... »
Ça chie pas juste dans tes oreilles, non. Ça peut chérir
j'aime
sa route.
Ça, j'aime ça, j'aime ça. Anto, je saute directement avec une question de Claude André que plusieurs se posent. Et qui est très, très, très bonne. Allô, Super Trio. J'avais un doute que Geneviève ne se représenterait pas. Plus Dubé, Legault, Carman, Lebel. Je crois que Jolin Barrette va se désister. Ainsi, il n'y aura pas de course et la CAQ. Il n'y aura pas de course à la CAQ, puis la CAQ va être sur le bulletin de vote en octobre, mais risque de disparaître. C'est tough, là, pour Simon-Jolin Barrette qui pense se présenter, pour Christine Fréchette, pour peut-être un Bernard Drinville, de dire « OK, m'en va dans cette, sur cette arène-là pour aller avec un parti que je ne sais pas à quoi il va ressembler parce que les plus grands partent. »
Ben c'est ça, c'est des têtes d'affiche, hein, des personnes qui ont été des ténors à la CAQ. Sonia Lebel, tout particulièrement, parce que elle était... en fait, elle a fait partie, les gens le savent moins parce que c'était plus en coulisses, mais elle faisait partie de la série de bonnes nouvelles qui ont sorti la CAQ là, d'un espèce de marasme là, dans lequel la CAQ se trouvait avant l'élection de Geneviève Guilbeault dans Louis Hébert, dans le cadre d'une élection partielle. Et la CAQ, ça allait pas très bien. Gérard Deltel était parti, je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu une élection partielle dans sa circonscription de Chauveau, que la CAQ a perdu au profit du Parti libéral. Ça allait pas bien. Il perdait toutes ses partielles.
C'était l'ancienne chef d'antenne de TQS qui avait gagné.
Véronique Tremblay.
Tremblay, et voilà.
Et la candidate de la CAQ, c'était Jocelyne Cazin.
C'est vrai!
OK, c'était une élection partielle complètement surréaliste.
Oui, et ça l'avait fait la manchette ici à Québec. Et les gens avaient, oui, voté pour le Parti libéral, mais aussi contre le fait que la CAQ prenait quelqu'un de Montréal et l'amenait à Québec. Ça avait tellement pas passé.
Candidate parachutée par la CAQ. Puis le PQ, qui avait à peu près aucune chance de gagner dans Chauveau, puis qui avait une candidature très bien, qui est le maire de Stoneham, je pense, qui a été le maire de Stoneham pendant longtemps. Le chef du PQ, à ce moment-là, c'était un Pierre-Carl Péladeau fraîchement débarqué. Il y avait Julie Snyder qui faisait du porte-à-porte. Écoute, c'était une élection partielle complètement folle, OK? Moi, j'y étais, là, puis c'était comme une espèce de grand vaudeville. Cela dit, ça allait pas bien pour la CAQ à l'époque. Et l'embauche de Sonia Lebel comme conseillère. Donc, Sonia Lebel est rentrée. Je pense qu'elle était même directrice de cabinet adjointe, si je ne m'abuse. C'était gros, là, à l'époque, là, parce qu'on la voyait pas en politique nécessairement. C'est François Legault qui l'a convaincue de venir. C'était l'ancienne procureure de la commission Charbonneau, connue pour avoir malmené des méchants bandits potentiels pendant la commission. Donc, Sonia Lebel, c'est un gros morceau. Tu disais, c'est dur pour la CAQ parce que tu as une course à la direction qui ouvre une fenêtre vers une possible, disons, remontée. Parce que c'est difficile là, pour la CAQ, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, mettons que tu réfléchissais, est-ce que je me présente ou pas, tu pourrais te dire, bien, écoute, je vais attendre de voir ce qui se passe avec la course à la chefferie. Premièrement, au fédéral, quand ils ont fait une course à la chefferie, ils ont remplacé Justin Trudeau, ils sont allés chercher un autre mandat, qui sait. Là, ce que ça envoie comme message avec l'annonce de Geneviève Guilbeault hier et de Sonia Lebel aujourd'hui, c'est que les têtes d'affiche s'en vont de toute façon. C'est sûr que ces deux femmes-là étaient des candidates potentielles. Donc, à un moment donné, elles doivent annoncer est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et plutôt que de dire j'y vais pas, décide de dire ben moi j'ai réfléchi et de mettre ça dans une réflexion qui est plus globale pour peut-être éviter de démontrer que, ben, dans le cas de Geneviève Guilbeault, est-ce qu'elle avait les appuis nécessaires? Est-ce qu'elle était « brûlée » entre guillemets? Elle a réussi à transformer le message en « je prends une décision pour mes enfants ». Donc, au terme de la stratégie de communication politique, c'était plus habile de le faire comme ça. Pour Mme Lebel, peut-être, moi je me dis, à un moment donné, si j'étais Simon-Jean Labarrette qui y pense très sérieusement, ou Christine Fréchette, je me dirais, il faudrait que les gens arrêtent d'annoncer qu'ils s'en vont, là, parce que ça fait vraiment comme ça va pas bien.
Je me demande des fois, tu sais... Sonia Lebel, j'ai rien vu passer à ce niveau-là. Je peux rien affirmer. J'ai vu quand même dans l'actualité, dans ma reprise de ce que j'avais laissé aller, que pour Mme Guilbeault, il y avait peut-être quelque chose qui allait s'en suivre suite à la SAQ Clic, puis l'enquête qu'on a eue à ce niveau-là, la commission Galant. Peut-être que, bon, c'est un salut en ce sens-là. « Hey, ça va être éclaboussé, je veux pas nuire au parti, etc. » Je pense que je pourrais même me nuire, là, personnellement, en tant que personnalité politique. Donc, son choix, moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en ce sens-là. Après, je suis pas dans ses culottes, là, mais au niveau familial, c'est une couple là, qui partent là, en politique, qui disent « la famille », puis bon, je me dis, effectivement, une façon de se redorer. Mais pour Mme Lebel, c'est malheureux parce qu'on vient de se poser la question « Bon, y a-tu quelque chose aussi qui pourrait l'éclabousser? Y a-tu. Mais elle semble pas avoir quelque chose à son dossier.
Non, absolument pas. Puis moi, je la connais bien, Mme Lebel. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré, que je respecte beaucoup. Et ce n'est pas quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir et d'être le chef absolument de quelque chose. OK? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la voient là, mais elle, elle s'est pas.
Présentée pour ça, là.
C'est pas un rêve de jeunesse, là, nécessairement, de devenir première ministre. Je pense qu'elle est très, très fière du travail qu'elle a accompli et elle va ressortir de la politique. Bon, ça n'a pas toujours été facile, là, avec les syndicats, les négociations, etc. Mais avec cette annonce qu'elle fait aujourd'hui, elle ressort de la politique un peu indemne. Mm-hmm. Parce que c'est difficile. Quand t'es chef, tu finis toujours un peu mal. Là.
En effet.
C'est une grosse décision.
Oui, puis c'est pas facile non plus de sortir de la politique indemne. Et à cet effet-là, on écoute Geneviève Guilbeault, par contre, qui ne regrette pas du tout d'être allée en politique.
Faire de la politique, c'est vivre avec des faussetés, des insultes et des critiques abondantes et permanentes. Mais si l'acharnement médiatique est le prix à payer pour porter des gros dossiers, pour aller au front et se mettre à risque pour faire avancer le Québec, je le referai demain matin. Parce que c'est trop important et parce que c'est aussi important que des femmes continuent de se lancer et qu'on continue d'être fiers collectivement de chaque femme qui brave le contexte très difficile de la politique de nos jours.
Elle a beaucoup insisté là-dessus hier dans sa conférence de presse sur l'importance de représenter les femmes, l'importance de donner un véhicule à la femme en politique. Puis là, j'en reviens à ce que tu nous as dit la semaine dernière de l'homme blanc et de sa confiance
débordante. Sa confiance infinie.
Geneviève Guilbeault, bon, il y a nécessairement certains ratés qu'elle a fait, puis je crois qu'elle va se faire blâmer avec sa clique. Mais somme toute, elle sort de la politique en représentant la femme battante qui est allée jusqu'au bout.
Ouais. Donc Geneviève Guilbeault qui a choisi d'annoncer la fin de son parcours politique pour l'instant d'un épisode, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait la revoir, elle est jeune, là, elle a un petit peu plus de 40 ans, elle pourrait revenir, elle pourrait faire partie de l'espace public, elle pourrait chroniquer, elle pourrait faire plein de choses, là, Mme Guilbeault. Hier, entourée de famille, de collègues, hein, elle n'était pas seule comme quand elle a annoncé la fin du troisième mois avec ses cartables. Et elle a vraiment axé son allocution sur, ben, premièrement, elle voulait être positive. Elle n'est pas arrivée abattue du tout. Elle a dit qu'elle était très fière, que c'était vraiment une belle journée pour elle. Elle en a profité pour rappeler plusieurs de ses accomplissements. Mais c'est vrai que, même si elle dit que ça n'a rien à voir avec l'actualité, ben, la semaine passée, sur ce vide, Nicolas Lachance, pour en parler justement sur tes ondes, il y avait cet avis de ce préavis de blâme qui a été coulé, là, on va se le dire. Là,
ben oui.
C'est une belle petite jambette. C'est une belle petite jambette à une candidate potentielle à une course à la chefferie. Tu dis, je pense qu'elle va être blâmée pour sa clique. Attention, moi, je maintiens que juste la chronologie de sa clique, elle ne peut pas être la grande coupable. Oui, tu peux être coupable d'avoir mal, après, répondu, gérer la crise, avoir menti en commission. Tout ça, c'est possible.
Bien, avoir mal interprété où on était rendu dans le budget au moment où elle est arrivée.
Écoute, elle est arrivée en poste. Et la chenoute a pogné 3 mois plus tard. Je veux dire, à un moment donné, je dis pas là, qu'elle est parfaite là, du tout, mais j'ai hâte de voir les conclusions dans le rapport parce que je pense que le rapport va être plus doux avec elle que le spin avant le rapport.
Okay? Pourquoi l'avoir annoncé dimanche, Antonine, selon toi?
C'est une excellente journée médiatique, le dimanche, pour annoncer ce genre de choses-là, parce que le lundi matin, tout le monde parle de ça. C'est un moment où il y a de l'attention, les gens écoutent la télé le dimanche soir, donc c'est un bon moment. En fait, j'ai trouvé que ça allait vite un peu après le départ de M. Legault, parce que moi, tu sais, je me dis peut-être qu'elle aurait dû attendre, mais en même temps, il fallait tirer sur le pansement parce que les spéculations allaient bon train. En fin de semaine, j'ai essayé de me rappeler du bilan de Mme Guilbeault dans sa globalité parce que les commentaires qu'on reçoit sont souvent très négatifs et beaucoup d'animosité envers Mme Guilbeault. C'est un personnage qui est quand même un peu polarisant. Et je suis revenue en arrière, je me suis demandé c'est quoi le parcours politique de Mme Guilbeault. Premièrement, c'est l'élection partielle de 2017 dans Louis Hébert. Okay? Sa maman démissionne dans une crise. Je me rappelle même plus c'est quoi. Je me rappelle même plus.
Sa maman, sur la crise de commissaire à l'éthique. Et
oui,
là,
des problèmes d'éthique. Là.
Puis là, il s'était fait trouver en Floride sur un terrain de golf.
Oui,
alors...
la Floride puis l'avion, ça, je m'en rappelle. Mais d'où c'est venu, ça? C'est
la commissaire à l'éthique.
C'est la commissaire à l'éthique d'une affaire, il me semble, premier tech. Là, une affaire comme ça. Donc, sa maman démissionne. La CAQ devait présenter un autre candidat. Okay.
Oui.
Et le Parti libéral aussi, d'ailleurs, deux candidats qui, finalement, il y a des affaires qui se sont mis à sortir sur eux autres assez rapidement et ils ont dû remplacer, les deux partis politiques ont dû remplacer leurs candidats. Donc, Geneviève Guilbeault, c'était un plan B. Et sa victoire dans Louis Hébert a vraiment été le début du chemin qui a mené la CAQ vers la victoire de 2018.
Exactement. Ça a été le début de la fin pour les libéraux. Tu sais, je compare ça beaucoup à Jean Talon 2023.
Absolument.
C'est le lancement du PQ, le renouveau du PQ versus le début de la chute de la CAQ.
Les partiels dans la région de Québec, ça fait tout...
Déterminant.
C'est déterminant pour
toute
la politique.
Peut-être que François Legault voulait plus qu'on soit à capitale nationale, mais on l'est encore.
On l'est encore.
C'est nous autres à Québec qui décident de la politique.
Mais c'est vrai que, de souvenir, elle avait amené quand même un caractère très charismatique à la CAQ. C'est vraiment pas l'étiquette
Absolument.
Qu'elle a en quittant, mais un grand charisme, une femme de tête, la place aux femmes en politique.
Enceinte. Faire campagne enceinte.
Enceinte. Et d'ailleurs, ça avait été... Moi, je m'étais chicanée avec des gens là, qui disaient, voyons, elle pourrait pas s'occuper de son comté, s'occuper de son bébé. Oh, mon Dieu. Donc, ça, c'est un autre élément, je trouve, qui marque le parcours politique de Geneviève Guilbeault. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, elle incarne la normalisation de la parentalité en politique.
Mm-hmm.
OK, il y en a eu d'autres. C'est une nouvelle génération d'élus, hein. Il y a d'autres députés qui ont pris des congés de paternité, de maternité. On a vu des bébés à l'Assemblée nationale. Mais Geneviève Guilbeault, elle était ministre. Donc, elle a fait son élection enceinte et après, elle a eu son deuxième enfant en étant en poste. Donc, elle a vraiment contribué à ça. Elle mettait beaucoup ses enfants de l'avant. On peut avoir des débats sur si c'est une bonne idée de mettre nos enfants sur les médias sociaux. Je n'embarque pas là-dedans pour aujourd'hui, mais ça a contribué aussi à démontrer que c'est possible d'avoir une carrière politique avoir des enfants en même temps. Donc, quand elle a apporté la question des raisons familiales, on se met beaucoup à aimer nos familles quand les sondages sont plus bas. Là. On s'entend, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Mais ça faisait quand même un certain sens, étant donné que la famille a été au centre de son engagement politique depuis son élection en 2017. elle a aussi rendu le poste de vice-première ministre autre chose qu'un poste honorifique ou symbolique. Pendant la pandémie, là, les mauvais souvenirs de la pandémie, vous m'excuserez, elle remplaçait M. Legault une journée sur deux à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait seulement la moitié des élus qui venaient parce qu'il fallait s'asseoir à tout à un siège de distance. Là, vous vous rappelez de cette merveilleuse époque. Ah, oui. Et Mme Guilbeault répondait aux questions comme si elle était première ministre et elle faisait les conférences de presse aussi. Donc, Mme Guilbeault a vraiment été mise de l'avant pendant la pandémie. Comme ministre de la Sécurité publique, je retiens la question du déploiement des bracelets anti-rapprochement.
Ah, ça, c'est pour la société, pour les femmes violentées. Puis d'ailleurs, excellent article dans la presse sur le nombre de dénonciations qui a augmenté. Puis c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les femmes parlent.
Oui.
Ça a été vraiment une très belle révolution, une révolution importante pour le Québec et la sécurité.
Et ça aussi, ça milite pour dire que les femmes, et les femmes en politique, mais les femmes en général, c'était important pour Mme Guilbeault. Bon, après ça, transport, ça a moins bien été. Ça allait moins bien pour le gouvernement en général aussi. Donc, on parle de la crise de sa clique, évidemment. Ouais, ouais. Mais le moment le plus charnière, c'est la fin du projet de troisième lien. Avril 2023, elle se présente avec ses cartables et elle nous convainc que rien ne justifie que l'on poursuive ce projet-là. Quelques mois plus tard, élection partielle dans Jean Talon, défaite de la CAQ et M. Legault change d'idée et elle est pognée pour défendre ce qu'elle avait finalement démoli quelques mois auparavant. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va affecter sa crédibilité et qui s'est vu par plusieurs comme le moment de tournant, le tournant pour l'amour que les Québécois avaient pour le gouvernement Legault.
Vraiment et vraiment pas aidé par son chef et le premier ministre François Legault à ce moment-là. Pour continuer à parler de la CAQ et de cette course à la chefferie, on a au bout du fil le ministre des Communications également de la culture, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, comment allez-vous?
Ça va rapidement.
Oui, c'est ça.
Ça va rapidement cette semaine.
François Legault quitte jeudi dernier. Départ de Mme Guilbeault dimanche. Départ de Sonia Lebel aujourd'hui. À quel point la CAQ est affectée à l'heure actuelle?
Ben, c'est sûr que ça bouge, mais en même temps, je pense pas qu'on doit voir ça comme quelque chose de très négatif. Pas que je me réjouisse du départ des collègues, pas du tout. Je pense que, évidemment, j'ai réagi lorsque M. Legault est parti. Même chose pour mes deux collègues dans les dernières heures en disant que c'est grâce à eux, entre autres, que la CAQ est ce qu'elle est et grâce à eux qu'on a été élus aussi parce qu'ils ont fait partie de l'équipe. Mais je pense que ce qu'on voit, faut pas le voir d'une façon négative dans le sens où on assiste à un...
Oh, est-ce qu'on a perdu M. Lacombe? On va voir s'il revient.
Si jamais vous entendez M. Lacombe, la ligne a coupé, juste nous rappeler au même numéro que vous aviez, s'il vous plaît.
Donc, on va tenter de reprendre l'entrevue avec Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, Antonine, qui appuie Christine Fréchette. On va avoir également Suzanne Roy en entrevue à 13h25, qui, elle, appuie Simon Jolin-Barrette. Est-ce que ça va être une course à deux ou Bernard Drainville va venir s'immiscer dans les plans?
Écoute, les trois options, c'est un couronnement, un duel ou un trio pour l'instant, mais il peut y avoir des surprises aussi. Effectivement, les appuis, la course n'est pas démarrée. Les annonces de candidature ne sont pas officielles, mais là, on annonce déjà des appuis. La pré-course est bien démarrée.
Exactement. On revient justement avec le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, vous avez appuyé officiellement dans les médias Christine Fréchette aujourd'hui. Pourquoi ce choix pour vous?
Bien, parce que je pense vraiment que Christine, c'est la candidate qui serait le mieux placée pour, même si elle est toujours en réflexion, je pense que ce serait la candidate la mieux placée pour incarner ce qui est l'ADN de la Coalition Avenir Québec depuis sa fondation, c'est-à-dire à la fois un parti qui est très économique, et en ce moment, on a des défis. Il y a de l'incertitude avec notre voisin américain. Il y a l'inflation, le coût de la vie qui a frappé les familles. Et même si on a remis de l'argent dans le portefeuille des Québécois, il en reste beaucoup à faire pour protéger les familles, la classe moyenne, les entreprises. Mais la CAQ, dans son ADN, c'est aussi le nationalisme. Puis moi, je suis un ministre qui est résolument nationaliste. Je pense qu'il faut en faire plus pour protéger notre langue. Je pense qu'il faut en faire plus pour faire rayonner notre culture. Ça fait partie de notre identité. Je pense qu'il faut s'assurer au Québec d'avoir une façon d'intégrer nos nouveaux arrivants qui respectent notre capacité d'intégration. Il faut demeurer accueillant dans le respect de cette capacité-là. Et je sais que Christine Fréchette, elle partage ma vision des choses. Donc, pour ces raisons-là, je pense que ça fait d'elle une candidate toute désignée, en plus de ses qualités humaines. C'est une femme qui est calme, c'est une femme qui est ouverte au compromis aussi, pas sur ses valeurs, mais dans la façon de travailler les dossiers. Et quand on veut être première ministre, je pense que ça, c'est une qualité qui est essentielle. Et je terminerai peut-être en disant, parce que je pourrais continuer, mais en disant que je trouve que ce serait rafraîchissant aussi d'avoir un leadership féminin, moderne, à la tête du Québec. Je pense que beaucoup de Québécois attendent ça également. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que Christine serait le choix le plus naturel, le plus évident.
Monsieur Lacombe, ça fait longtemps que vous êtes au sein de la coalition Avenir Québec. Vous avez été très proche de François Legault. Une course à la chefferie, c'est difficile hein, pour un parti. Ça divise, ça demande de prendre le camp d'un côté ou de l'autre. Il y a de la mutualité des fois qui se crée. La CAQ est en division aussi depuis un bon bout déjà de notre œil à nous. Quand on a un pied à l'extérieur, c'est ce qu'on constate. Les matelots quittent la barque, le bateau en ce moment. La stratégie de M. François Legault n'avait pas été mise en place pour la suite de sa succession. Aviez-vous l'impression qu'on avait un poulain, au moins, une dauphine à l'interne? Non. Pourquoi est-ce qu'on se divise en ce moment entre plusieurs candidats?
Non, je pense que tout ça a toujours été très transparent. Pour ma part, à l'interne, d'abord, j'ai jamais senti personne faire campagne, quelqu'un tenter de pousser le chef vers la sortie. Et ça, je vous dis que ça m'a beaucoup plu parce que le contraire aurait été très difficile à vivre. Ces luttes intestines que d'autres partis ont connues, on n'a pas connu ça à la coalition Avenir Québec. Donc, il y a une harmonie. Bien sûr, parfois, on a des discussions plus musclées avec certains collègues. Ça fait partie de la vie. On a ça dans nos propres familles. On a ça dans nos couples avec nos amoureuses ou nos amoureux. C'est normal. Mais il reste qu'on n'avait pas de clan. On n'avait pas de guerre comme d'autres partis ont eu. Donc ça, quand on gouverne, c'est très, très précieux. Maintenant, là, le premier ministre a décidé de passer la main. Et bien sûr qu'il faudra avoir une course, mais je pense qu'on est capable, en tout cas c'est mon souhait, d'en avoir une qui se déroulera bien puis qu'on sera capable de conserver cette harmonie-là. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans, qu'on est au gouvernement. On a toujours réussi, même lorsqu'on était assez bas dans les sondages. Donc, je pense qu'on est capable de continuer.
Votre appui arrive quand même assez tôt. Là. La course n'est pas encore démarrée. Évidemment, on sait qu'en coulisses, ça se prépare et ça travaille déjà sur les candidatures de certaines personnes. Mais le fait, de donner son appui aussi rapidement, vous parlez d'économie, de nationalisme. Nous, c'est sûr, là, le commun des mortels ne sait pas c'est quoi la position, par exemple, de Christine Fréchette sur un paquet d'enjeux, troisième lien, laïcité, un projet de loi sur la laïcité, on va aller encore plus loin, on veut interdire notamment les signes religieux dans les CPE. Nous, on ne connaît pas le programme de Mme Fréchette en la matière. Est-ce que vous êtes allé chercher des garanties, des engagements de votre côté pour être en mesure de nous assurer que Mme Fréchette va effectivement continuer le legs nationaliste que M. Legault avait commencé?
Bien, d'abord, je suis député de la coalition Avenir Québec, ministre également depuis 2018. Mme Fréchette a été élue en 2022. Elle a fait son entrée au Conseil des ministres. Donc, je la côtoie personnellement depuis 3 ans et demi. Puis, vous savez, quand on est au Conseil des ministres, on ne s'exprime pas seulement sur nos dossiers. Donc, quand je suis au Conseil des ministres, je ne parle pas que de culture. Je suis appelé à donner mon avis sur les questions liées à l'immigration, sur les questions liées à l'économie, sur les questions liées à la santé, à l'éducation, etc. Donc, on comprend bien où nos collègues logent sur à peu près tous les dossiers. Règle générale, on sait où logent nos collègues. Donc, ça fait 3 ans et demi que je la côtoie. Je sais quel est son avis. Je sais de quel type de nationalisme elle se réclame. Et je vous dirais que ce que moi, je vois depuis 3 ans et demi, c'est une personne avec laquelle je travaillerais très bien si elle était première ministre. Et je pense, et je veux pas me répéter, mais qu'on doit avoir un ou une chef et ultimement une première ministre qui va être capable d'allier l'économie et le nationalisme. Et ça, je pense que c'est difficile à trouver et que Mme Fréchette l'incarne très, très bien. Donc oui, mon positionnement est rapide. Bon, je suis pas reconnu pour tergiverser. Je consulte habituellement, je m'entoure des bons partenaires, mais quand je prends une décision, on avance et on la défend. Dans ce cas-là, pour moi, il y avait, même si il y a d'autres candidats qui ont de très bonnes qualités aussi, puis avec lesquels je suis à peu près d'accord sur tous les dossiers, Il reste que pour moi, l'incarnation de l'économie et du nationalisme, la meilleure personne pour le faire, c'est vraiment Mme Fréchette.
En terminant, M. Lacombe, est-ce que le fait de vous projeter et d'appuyer Christine Fréchette fait en sorte que vous nous assurez que vous allez vous représenter aux élections d'octobre 2026?
Oui, c'est ce que j'ai dit au premier ministre aussi. Donc, c'est une grosse année, cette année électorale. Mon plus grand va faire son entrée au secondaire en pleine campagne électorale. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai deux petits garçons qui m'ont poussé à continuer parce qu'ils trouvent que c'est important. Donc, j'ai beaucoup hésité, mais à l'heure où on se parle, c'est mon intention. Je serai sur les rangs en 2026, en octobre.
Mathieu Lacombe est ministre de la Culture et des Communications et député de Papineau pour la Coalition Avenir Québec. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui et on vous souhaite une belle continuité.
Un plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup. C'était Mathieu Lacombe, ministre des Cultures et des Communications. Quand je regarde sur Québec 125, la CAQ est troisième présentement dans Papineau à peu près 18 %. Le PQ deuxième à 25 %. C'est le PLQ en premier à 29 %. Ouais. Il va avoir un méchant travail à faire, Mathieu Lacombe.
Bien, l'Outaouais, ça a été rouge pendant très, très longtemps. D'ailleurs, oui. À mon humble avis, ça leur a énormément ennuyé parce que c'était une région qui était prise pour acquise. Hein. Tu veux que les gens chicanent pour t'avoir là, dans la vie. Là. pendant longtemps sur Québec 125, Mathieu Lacombe faisait partie des derniers députés à tenir le coup dans les projections. Donc, quand il restait 4-5 députés, il était encore là oui. avec l'Assomption.
Puis en passant, une qui tenait le coup, c'est Sonia Lebel qui est à 27 % présentement dans Champlain. Et c'est 29 % de PQ.
Et Christian Dubé a tenu longtemps oui. aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer là, dans Papineau si jamais la CAQ réussit à remonter de quelques points. Ça, des fois, hein, selon les luttes à trois, ça peut revirer de bord assez vite.
Oui, des fois, c'est l'outsider dans la lutte à trois qui réussit à se faufiler. Donc, ça pourrait arriver, mais très content de savoir qu'il va se représenter. Honnêtement, c'est un ministre d'une grande qualité.
Mais tu sais, hein, quand M. Legault a démissionné la semaine passée, on spéculait un peu sur les noms possibles. Moi, je trouvais que Mathieu Lacombe pourrait être un candidat qui se fasse un peu plus connaître dans le cadre d'une course à la chefferie parce que c'est un politicien qui a un certain talent naturel, plus jeune aussi. On essaie d'aller chercher de la jeunesse en politique. Mm-hmm. Je l'écoutais parler. Bon, il parle d'économie, de nationalisme avec Christine Fréchette, mais c'est sûr qu'une Christine Fréchette contre un Simon-Jolin Barrette, veut pas, elle risque de se faire définir comme étant plus montréalaise, un peu moins région, un petit peu plus, là je le mets vraiment avec un gros guillemet, mais woke, parce que comme ministre de l'immigration, elle était beaucoup plus soft qu'un Jean-François Roberge ou un Simon-Jolin Barrette qui a été aussi ministre de l'immigration. En même temps, elle a livré la marchandise, elle a réussi à parler d'immigration sans diviser, ce qui est vraiment quelque chose que moi je salue personnellement, mais Simon-Jolin Barrette risque de vouloir se définir comme le vrai caquiste. T'sais, celui qui était là,
début,
oui, il était dans l'opposition, et qui se présentait quand ça allait moins bien, etc. Alors que Christine Fréchette est arrivée en 2022, on s'entend que c'était sûr qu'elle allait gagner. C'était dans la vague de gens un peu, des candidatures plus vedettes, entre guillemets.
Vu que Simon-Jolin Barrette est là depuis le début puis est vu comme un vrai caquiste et tout ça, moi, ça m'a permis de revoir un peu son passé, comme l'exercice que tu as fait avec Mme Guilbeault un peu plus tôt avec nous dans le caucus. C'est quand même quelqu'un qui a, à un moment, eu beaucoup d'attention sur la manière dont tu faisais les choses. Absolument. Qui prenait la parole, là, manque de charisme un peu dans ses dossiers.
Manque d'empathie.
D'empathie aussi. Mmh. Puis là, le charisme, c'est moi, je ne dépeins pas Simon-Jolin Barrette comme étant la personne la plus charismatique. Puis tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas les bonnes choses, mais pour moi...
Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec toi. Personne ne va t'ostiner là-dessus.
Je veux pas être méchante. Mais
il y a des qualités aussi.
Oui, il y a des qualités aussi. Puis bon, son manque de charisme vient avec une rigueur quand même dans ses travaux puis tout ça. Chose étant, en tant que premier ministre, moi, j'ai vu une faille au niveau enveloppe externe pour Simon-Jolin Barrette à la tête d'un parti.
Bien, moi, savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Philippe Couillard. Philippe Couillard, qui était apprécié comme ministre de la Santé, mais qu'une fois qu'il est devenu premier ministre chef au départ, le monde disait, mon Dieu, hein, il n'est pas très chaleureux, très neurochirurgien, là, médecin spécialiste, pas toujours l'empathie. Des fois, il y avait des manières de parler de certains enjeux où on sentait qu'il nous regardait de haut, par exemple. Il y a des différences très, très grandes avec Simon-Jolin Barrette, mais ça fait partie de ses faiblesses, l'empathie, l'aspect plus humain de la chose, alors que son bilan est exceptionnel. Là. Il y a beaucoup de faits d'armes.
Antonine Iacarini, merci infiniment pour le caucus. Merci de nous avoir booké l'entrevue avec Mathieu Lacombe. Puis en passant, mon frère me dit « Je manque jamais le caucus hier quand j'ai regardé le football. »
Un homme intelligent. Ah, oh, le caucus de football?
Non, non, le caucus avec Antonine Iacarini.
Ah, OK.
Il a dit pendant quelques
temps. Il dit « Dis à Anto que je manque jamais un caucus. »
Parce qu'un caucus, c'est un terme qui existe au football.
Oui, c'est
right?
un terme. Oui, c'est avant de faire le jeu, le carrière parle à ses joueurs.
Exact. Donc, son frère est un homme de bon goût, c'est ça?
Ben, alors, absolument. Un homme
alors,
de goût.
C'est ça.
On le salue.
Ben, je te remercie, mais écoute peut-être pas à radio avant que tu arrives. Non, je ferai. Sur ces belles paroles, on fait une courte pause à Boulevard 101. Gros dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal aujourd'hui sur nos cégeps qui tombent en lambeaux. On est obligé de faire énormément de travaux d'urgence. On fait des cours jusqu'à 11 heures le soir parce qu'il y a une surpopulation dans nos cégeps. Alors, après la pause, on va parler avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps, de ces problématiques qu'ils vivent et de comment on pourrait régler ça. Mais surtout, est-ce que la situation va encore une fois s'empirer avec les années? Donc, après la pause, c'est Marie Montpetit qui est avec nous, présidente de la Fédération des cégeps, à l'émission On en jase sur Boulevard 101. J'adore nos nouveaux beds. Il est présentement 12h43. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102, l'émission d'En Jase, je le rappelle, et vous, vous interagissez énormément. 418-971-1021 pour interagir avec nous. Également, on est sur twitch.tv/BLVD/FM. Vous pouvez participer au chat. D'ailleurs, là, il y a un auditeur ou une auditrice qui écrit « Ben oui, c'est négatif, arrête de te mettre la tête dans le sable » en parlant de Mathieu Lacombe qui a dit « Ah, ça arrive dans tous les partis politiques. » On s'entend, la CAQ est en difficulté là, à l'heure actuelle,
ben,
donc
oui.
Je suis très d'accord.
J'aurais aimé ça, avoir une réponse, puis là, bon, j'ai peut-être essayé, mais oui. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais tu sais, si j'en donne pas, je pognerai pas de poisson.
Ben non, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une division au sein de la CAQ depuis
ben oui.
Un bon bout est observée, puis ma question, je la martèle. Mais François Legault avait-il préparé sa relève comme il se doit dans un parti politique? Puis parce qu'en ce moment, clairement, ce qui aurait été bénéfique, je pense, pour la CAQ, c'est de savoir c'est qui notre prochain joueur. C'est qui allait remplacer François Legault pour qu'on se perde pas dans une course à la chefferie puis qu'on garde le cap pour montrer qu'on est fort, qu'on est bien en selle. Parce qu'on n'était pas bien en selle et on n'est pas assez fort face à plusieurs enjeux. Plusieurs projets de loi qui ont achoppé, qui ont été difficiles. Je me disais, si au moins la succession, elle était pure et dure établie, puis tout le monde se ralliait, on aurait dit, tu sais, il y a une division dans toute course à la chefferie, là.
Ben oui, tout le temps.
Je veux dire, Charles Millière, Blackburn, les équipes se sont pognées tout le long pour
c'est
la course
clair.
À la chefferie chez les libéraux lors de la dernière fois. Tu sais, Jeff, je pense que ça aurait été un bon air d'aller tous vers le même point.
Il avait préparé sa succession, c'était Geneviève Guilbeault, mais il l'a coulé avec le projet du troisième lien. C'est aussi
simple. Il l'a coulé lui-même. Là.
Ah oui, il
l'a
coulé lui-même.
Il y a une protection à faire. Là,
vraiment. Pascal, as-tu vu dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, comment nos cégeps font dur?
Je m'attendais pas à ça, honnêtement. J'ai l'impression que c'est toujours un peu l'enfant pauvre de l'éducation quand tu viens à parler des enjeux. On parle souvent primaire, secondaire, même université. Cégep, souvent deux chaises.
Oui, souvent deux chaises et là, complètement laissé à l'abandon par les différents paliers de gouvernement. Et on va justement parler avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. Madame Montpetit, merci de votre disponibilité aujourd'hui.
Merci à vous de me recevoir. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Madame Montpetit, est-ce que la situation est pire que jamais dans nos cégeps, là, avec les photos qu'on a vues, les reportages dans le Journal de Québec, Journal de Montréal? J'aurais l'impression de dire oui, là.
Bien, à cause du sous-financement chronique, dans le fond, oui, là, le déficit de maintien d'actifs augmente d'année en année. Tu sais, vous vous rappellerez, il y a deux ans, tout juste, la vérificatrice générale du Québec avait tiré la sonnette d'alarme, justement, en disant il faut absolument qu'il y ait des investissements majeurs qui soient mis en place parce qu'il y a trop de bâtiments dans le réseau collégial public qui est vétuste. Puis, mais depuis ce temps-là, le financement pour entretenir les bâtiments, il a diminué de 50 % des allocations qui sont données par le gouvernement. Donc, c'est sûr que l'écart, là, le fossé, il continue de se creuser là, entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Là.
Est-ce que, au niveau des infrastructures, si le gouvernement continue à financer aussi peu, à un moment donné, on va être rendu, je sais qu'au cégep Saint-Laurent, on a fermé un pavillon, est-ce qu'on va être rendu à carrément abandonner les cégeps?
Écoute, on en est vraiment pas là, mais la grande préoccupation, c'est ça, là, c'est qu'à l'heure actuelle, faute d'argent, il y a des travaux préventifs qui ne peuvent pas être faits. ça, c'est comme dans n'importe quoi, là. C'est comme dans une maison. Quand on n'arrive pas à faire du préventif, ben, on se met à risque d'avoir des bris de service, on se met à risque d'avoir des travaux d'urgence, des travaux forcément comme ils sont faits en urgence qui coûtent beaucoup plus cher. Encore dernièrement, on en a eu, là, dans les dernières semaines, des infiltrations d'eau, des dégâts d'eau. Là, ça amène à fermer des pavillons. Puis on est dans un contexte de manque d'espace, hein. Vous savez, là, ça fait deux ans consécutifs qu'on a les plus grandes hausses d'étudiants dans nos 48 cégeps, puis on sait qu'on va encore avoir des milliers d'étudiants supplémentaires à la prochaine rentrée collégiale et encore pour les 10 prochaines années. Là. C'est les jeunes là, qui sont nés à la fin des années 2000 là, qui font leur rentrée. Là. On savait que ça s'en venait, c'est pour ça qu'on faisait des demandes justement pour agrandir, mais c'est la grande préoccupation là, de ne pas avoir les montants suffisants, non seulement pour créer de l'espace, mais aussi justement pour entretenir qui est déjà là. Puis c'est des biens publics, hein. Tu sais, moi, je faut pas qu'on perde ça de vue. C'est un actif public, là, les cégeps. Donc, il y a une responsabilité de bien les entretenir.
C'est particulier de constater ça parce que là, on va faire une petite histoire courte. Là, vous l'avez dit, on pouvait voir les chiffres venir en termes d'augmentation d'écoliers fort probablement au cégep. Juste par le boom de natalité, juste par les natalités, on était capable de suivre primaire, secondaire, cégep, université approximativement de combien ça allait augmenter. On a été un peu pris par surprise. On a fait des conteneurs pour mettre les élèves là, au secondaire dans bien des écoles et même au primaire. Au niveau du cégep, c'est où que la courroie de transmission a chopé par rapport aux travaux? Où est-ce qu'on n'a pas vu les travaux venir? Qui n'a pas sonné la sonnette d'alarme pour qu'on soit rendu finalement à avoir de la décrépitude très avancée?
Bien, au niveau du réseau collégial public, c'est des demandes qui sont faites de longue date. Là. Tu sais, vous le nommez bien, là, ces enfants-là sont nés en 2007-2008, dans ces eaux-là, 2009. Ils ont 17, 18, 19 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on savait que ce boom démographique-là venait. C'est les jeunes qui ont été, malheureusement, tu sais, il n'y avait pas de place en garderie. Après ça, ça a été des modulaires dans les écoles primaires, des modulaires dans les écoles secondaires. Tu sais, c'est ces cohortes-là qui font leur entrée au cégep. Nous, c'est des demandes qu'on fait de façon répétée depuis des années, à dire, écoutez, le train a quitté la gare, là, ces jeunes-là s'en viennent. Il faut être capable de les accueillir. Et là, on arrive dans une situation où, bon, tu sais, les cégeps, là, ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de créativité, d'innovation. Ça a grandi par l'intérieur. Il y a des espaces qui ont été ajoutés partout. Mais il y a plusieurs cégeps qui approchent de la pleine capacité, là, qui sont vraiment à la limite. Puis, comme je vous disais, en septembre prochain, en août prochain, là, à la rentrée, ça va être des milliers d'étudiants encore supplémentaires qui vont arriver. La question, c'est est-ce qu'on est capable de demeurer accessible? Parce qu'on s'est doté de cégep au Québec, justement, pour rendre l'enseignement supérieur accessible. Mais encore faut-il être capable de maintenir cette accessibilité-là.
Puis vous voulez dire en termes de coûts pour les gens qui voudraient s'inscrire?
Non, pas en termes de coûts, en termes d'espace. L'accessibilité en termes d'espace, parce que l'enjeu, il est vraiment là à l'heure actuelle. Là, c'est d'avoir, on a 200 000 étudiants présentement qui sont formés dans les 48 cégeps en 60 ans d'existence, ça, des cégeps. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui ont fait le choix du réseau collégial. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut être capable d'avoir les espaces adéquats pour les accueillir. Pas seulement des salles de classe, hein, c'est pas seulement des boîtes à cours, là. C'est aussi c'est un milieu de vie, donc c'est les cafétérias en ce moment là, qui sont bondées. Certaines situations où on se retrouve avec des jeunes parfois qui doivent manger dans leur voiture, c'est sûr que c'est pas idéal, là. Puis loin d'être idéal, c'est même vraiment malheureux comme situation. C'est dans ce contexte-là qu'on fait des demandes au gouvernement en leur disant, ben écoutez, si l'éducation est une priorité, puis elle devrait l'être, là, c'est quand même le socle de notre société, ben il faut que les investissements soient à la hauteur des responsabilités qui sont confiées au réseau. Là.
Pour rappel, on parle avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. On parle de l'état de déséétude très important dans nos installations au cégep. Madame Montpetit, dans les articles du Journal de Québec, Journal de Montréal, on voit également qu'il y a des cours maintenant qui se donnent jusqu'à 11 heures le soir. Est-ce une bonne façon de faire en apprentissage? Là? Moi, je me remets à mes années de cégep. Là. Si j'avais eu un cours à 11 heures le soir, ben premièrement, je serais arrivé avec 2-3 bières dans le corps parce qu'au Delzibar, c'était vraiment pas cher à côté du cégep Limoilou.
T'aurais passé ton temps avant le cours.
C'est bon. Ça. Et deuxièmement, un cours de philo à 9 heures le soir, pas sûr que je suis capable de suivre ça.
Bien, les cégeps font ce qu'ils peuvent, comme je vous dis, pour garder ça accessible. Hein. Si on veut être capable de rentrer plus d'étudiants dans le même espace, bien, ça demande ce type de solution-là. Il y a des cégeps qui ont décidé d'allonger leurs heures de cours en soirée, mais c'est tout le défi auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait un coup de barre très rapide qui soit donné pour créer des espaces supplémentaires. Si vous le nommiez d'entrée de jeu, c'est vrai que C'est une réalité dont on parle peu souvent, mais c'est des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Il faut des infrastructures sportives qui ont de l'allure, faut un lieu de vie, faut des cafétérias, faut qu'ils aient le goût d'être là.
Ouais, fait qu'à cet effet-là, des classes modulaires, c'est pas ce qu'on souhaite là, dans les cégeps, là.
Ben, les classes modulaires, ça a beaucoup évolué. Hein. Maintenant, honnêtement, quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez pas vraiment la différence avec le fait que c'est pas un bâtiment comme tel. Donc, honnêtement, ça marche très bien les classes modulaires, mais ça reste que c'est temporaire. Là.
Mais c'est ça que j'allais dire.
On construit à vie.
C'est de l'argent qu'on investit dans quelque chose qui va être temporaire versus pour plusieurs années faire les choses comme il faut, comme il se doit. Dès le départ, puis pas en entendre parler pendant 10 ans, ce serait quand même agréable au Québec. On a l'impression que c'est souvent ce qui se perd, qui tombe en deux cracks, en fait, travailler en amont. C'est pas très sexy pour un parti politique, mais là, clairement, on se rend compte que ça crée des gros problèmes. Là. Puis ça va s'en suivre. Si un élève s'inscrit pas au cégep, ben c'est pas d'université possible aussi. Ça pourrait-tu rendre des programmes plus contingentés, même des programmes ouverts qui sont plus généraux habituellement?
Bien, on le voit déjà que à cause de la pression que ça amène, à cause du nombre, il y a plus d'étudiants dans le fond pour les stages. Donc, on voit bien que des fois, les notes à l'entrée, elles sont plus élevées que les années précédentes. C'est pour ça que je disais en termes d'accessibilité, c'est tout là le défi. Là. Tu sais, juste pour en revenir à la question des modulaires, les modulaires, ça fonctionne bien aussi pour des classes là avec chaises, bureaux. Mais il faut pas perdre de vue que, ça répond pas aux espaces communs, comme je disais, des cafétérias, des locaux pour travailler. Mais on a 50% de nos étudiants là, sur le 200 000 qui sont dans des techniques en construction, par exemple, des techniques de génie civil, génie électrique, des techniques en santé aussi. Hein. On forme beaucoup, beaucoup de techniciens qui vont aller soutenir le réseau de la santé. Mais c'est souvent des équipements qui sont très, très gros. Ça rentre pas dans un modulaire. Donc, tu sais, il faut des espaces, mais il faut renouveler ces équipements-là aussi à grand coût pour être sûr que les étudiants que l'on forme, ben, quand ils rentrent sur le marché du travail en sortant du cégep, ben, ils aient été formés, sur des équipements de pointe, de haut niveau aussi. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, quand on parle de productivité au Québec, de résilience économique, encore là, c'est des étudiants du cégep là, qui viennent répondre à ces besoins-là.
Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps du Québec. Madame Montpetit, on vous souhaite bon courage dans votre combat contre le gouvernement, puis on va souhaiter là, que nos institutions, nos infrastructures collégiales là, reviennent à la hauteur de ce qu'on mérite au Québec.
Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir. C'était Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. Pascal, on va se faire un petit dossier cégep, nous autres aussi, cette semaine. Puis je t'explique. Demain, 13h30, on va recevoir Marie-Pierre Aubert, qui est directrice adjointe du service psychosocial du cégep Garneau. Tu te souviens, c'est là 2 semaines avant que tu partes, on avait parlé des besoins en aide alimentaire qui avaient explosé au cégep Garneau. Donc, Marie-Pierre va être disponible pour nous demain 11h30. Et jeudi, 11h30, 13h30. Et jeudi, 13h30, c'est Isabelle Morin, professeure de sociologie au cégep Limoilou, dis-je mal. Elle vient d'écrire son premier livre, « Ma vie au cégep ». Elle va nous parler des enjeux des étudiants au cégep à l'heure actuelle. Parce que j'ai fait une blague tout à l'heure en disant « Bah, moi, je serais allé au Delzibar, le pot à 4 piastres, puis je serais arrivé un peu chaud d'ail à mon cours de philo. » Mais là, les étudiants, là, ils n'en ont plus d'argent.
Ils n'ont plus la même vie sociale. Non. Plus les mêmes... Puis tu sais, on fait des farces avec le bar, comme tu dis. C'est pas ce à quoi on s'attend nécessairement d'une
Exactement.
Vie quotidienne chez un jeune. Mais ça nous a tous formés. Je veux dire, sans cette période-là, on n'est pas où on
ben,
en est. Moi,
non.
Je suis pas mal moins calme. Si jamais j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire au cégep.
Exactement. Mais même principe pour moi. Puis en même temps, au niveau du milieu de vie, ce que Mme Montpetit nous disait, c'est très intéressant parce que compte tenu que les infrastructures sportives, les infrastructures récréatives n'ont pas suivi avec le nombre de personnes qui sont maintenant dans les cégeps, bien, les étudiants ont de la misère à faire comme moi je faisais, m'inscrire dans la ligue de volleyball, m'inscrire dans la ligue d'hockey COSUM parce qu'il n'y a plus de place.
Sais-tu quoi? C'est rare que je suis désillusionnée de cette manière-là dans la vie. Je pense que tu commences à me connaître un peu, mais tu sais, s'il y a un moment où j'aurais bien de la misère à me présenter en politique, si ça avait été quelque chose qui m'intéressait, c'est maintenant.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que tout ce dont on parle n'est pas colmatable en ce moment.
En effet.
Il manque de l'argent partout pour réaliser nos projets. On a clairement mal réalisé ce qu'on avait besoin, en fait, la création de richesses et tout ça. On a perdu beaucoup d'argent qu'on pensait être des peanuts, mais quand t'es ramasses puis tu vois le projet électrique de ci, de ça, Lyon électrique, tout ça, tu fais une grosse enveloppe budgétaire qui aurait pu être bien importante dans des endroits névralgiques.
Beaucoup mieux redistribué, en effet.
Là, je me demande comment est-ce qu'on va réussir à traverser les prochaines années. Puis le clin d'œil que je suis capable de faire, c'est celui avec le projet de loi 2 au niveau des médecins. Mm-hmm. Il n'a pas passé. On le réécrit. Mais il y a quand même des médecins qui nous ont quittés pendant ce moment-là, qui sont allés ailleurs. Il y a quand même des gens qui ont pris la décision d'aller à leur retraite aussi, de façon peut-être plus rapide que ce qu'ils avaient mis sur papier. Et le creux actuel qui va être creusé, il sera dommageable pour des dizaines d'années encore.
Ouais.
On avait eu sous l'ère Couillard beaucoup de problématiques qui n'ont pas été colmatées et on était encore souffrant de ça. C'est un projet de loi qui n'a pas été appliqué et on va être souffrant de ça pendant plusieurs années encore. Ça, ce n'est qu'un projet. Fait qu'imaginez tout ce qu'on va avoir à rattraper pour la suite des choses. Là, on voit l'inflation, là. On voit les dommages de la pandémie, de la gestion pandémique, de l'économie, des loyers. On rentre là-dedans. Encore aujourd'hui, on apprenait qu'on était en hausse au niveau inflationnel. Ouais. C'est des grosses années qui nous attendent, pas plus d'argent qui risque de rentrer, parce qu'encore là, il aurait fallu être prêt avec des projets. Ça me surprendrait qu'il y en a un qui pop et que, mon Dieu, on devienne si riche, finalement,
non,
de
en
nos
effet.
Investissements.
En effet,
ça m'inquiète.
Oui, ça t'inquiète, et tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, parlant d'inflation, ben Gabriel Giguère, analyste senior en politique à l'Institut économique de Montréal, va être avec nous après la pause. On va parler de cette hausse d'inflation, encore une fois, 2,4 en décembre. Donc, rien de rassurant pour la famille moyenne, cette fameuse classe moyenne au Québec. Puis également, je sais, on va parler d'un de tes sujets préférés. Mark Carney, pendant tes vacances, il est allé en Chine.
Eh oui, toi.
Puis il a signé les ententes économiques. Puis hier, au Qatar, il en a signé aussi. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? On va parler de ceci avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique à l'Institut économique de Montréal, immédiatement après cette courte pause à l'émission d'En jase sur Boulevard 102.1. 13h27 minutes. Je vous rappelle à la météo, c'est une journée ennuagée avec faible neige intermittente, accumulation de 5 cm de neige. Quelques averses de neige demain, moins 11, moins 9, alternance de soleil et nuages pour mercredi. Pascal, avant de passer avec Suzanne Roy, députée de Verchères pour la coalition Avenir Québec. Résume-nous quelques manchettes dans l'actualité.
Oui, je vais y aller d'abord avec quelque chose de très, très, très local. Hein. On parlait de ça très tôt à l'émission, mais Québec a accueilli 7700 portes de plus en 2025. C'est quoi ça? Ben, c'est des unités résidentielles. Alors, on a dépassé notre cible. Québec a eu un rythme assez accéléré pour des mises en chantier. Alors, un parc immobilier qui a cru de 5700, comme je vous disais. On espère, et selon le point de presse de Bruno Marchand, accéder à un genre de 6 000 là, pour la suite des choses, mais on a un bond de 80 % des mises en chantier par rapport à 2024. Alors, oui, on se tape dans le dos. On voulait cette croissance-là, mais c'est quand même la plus forte croissance au pays parmi les grandes villes canadiennes. Faut tout le temps revenir, malheureusement, avec des statistiques aussi du type « Ben oui, mais les logements sont aussi dans le plus cher qu'on retrouve au Canada. »
Exactement.
Donc, à l'échelle du Canada, c'est des totaux de mises en chantier d'habitation qui ont connu une augmentation de 5,6 %. Ce sont les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Ça va peut-être donner un bon coup de main ici, dans la ville. On est en avance sur ce qu'on souhaitait faire et soit dans la cible aussi.
Oui, le taux d'inoccupation qui est revenu à 2,4 Québec. On dit qu'il faut être à 3 pour que l'abordabilité au niveau des logements revienne. Alors, on est proche. On s'en vient. Let's go, on lâche pas.
On a connu l'identité de la mère de famille qui a été tuée dimanche à Rougemont. Il s'agit de Véronique Champagne, 40 ans. Elle est devenue la quatrième victime d'un féminicide présumé au Québec en moins de 3 semaines. Donc, c'est la SQ qui n'a pas confirmé des informations en globalité sur le dossier, mais on a plusieurs médias qui rapportaient et validaient de sources sûres, du moins la presse, qu'il s'agit de cette femme. Son conjoint, c'est un homme âgé de 41 ans, et c'est lui le principal suspect dans le drame. Il est toujours soigné à l'hôpital pour des blessures qualifiées de sérieuses par la Sûreté du Québec. Sur le profil Facebook de Véronique Champagne, qui travaille dans une animalerie, se décrivait, bon, une maman à la maison. Elle était en couple depuis mars 2020 avec un homme dont l'identité n'est pas dévoilée. dévoilées. Comme je vous disais, les accusations n'ont pas encore été déposées non plus. Il traîne par contre un lourd passé judiciaire avec une vingtaine de dossiers depuis 2005 et il avait plaidé coupable de voies de fait. Donc, couple qui a une fillette qui se trouvait dans le logement au moment du drame absolument tragique. Je vous rappelle que les policiers ont été appelés à Rougemont autour de 13h45 dimanche. C'est en Montérégie et on signalait qu'il y avait un conflit qui impliquait un homme et une femme dans un immeuble à logement et la victime avait été poignardée à plusieurs reprises puis elle a succombé à ses blessures. L'homme montrait également des signes de blessure et il serait retourné à l'intérieur du logement pour tenter d'y mettre le feu. Absolument tragique comme histoire, encore une fois, là, une de trop. Toujours oui. Une histoire de trop.
Quatrième féminicide depuis le début de l'année. On est au 19 janvier. L'an passé, on fait qu'il y en avait eu beaucoup avec 11. Donc là, les gars, faut se parler. Il faut arrêter cette montée de la violence. Quand je dis faut se parler, là, si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage est fragile, là, n'hésitez jamais à aller le voir, parlez-y.
Bruno Canuel, 68 ans. Je me demandais si j'avais pas déjà vu ce nom-là dans les médias auparavant. La réponse, c'est oui. Il était déjà accusé en octobre dernier pour des crimes qui étaient visant l'agression sexuelle. Donc, agression sexuelle ici à Québec, c'est un massothérapeute qui a été arrêté et je dis à nouveau, parce que comme je vous disais, c'est pour des crimes similaires qui avaient été accusés en octobre dernier et a été arrêté cette fois-ci, toujours avec une douzaine d'autres agressions sexuelles présumées. 68 ans, je répète, Bruno Canuel, massothérapeute du secteur de Lac-Saint-Charles, faisait l'objet d'un mandat d'arrestation, faisait état de 11 autres chefs d'accusation d'agression sexuelle, puis il va comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec parce qu'on l'a arrêté ce matin. Je vous rappelle que c'est une enquête du corps de police qui a été lancée l'été dernier. Plusieurs personnes avaient signalé le comportement de l'homme, Jeff. C'est de la massothérapie à la maison, à sa résidence qu'il faisait. Alors, on va suivre le dossier.
On va rejoindre immédiatement la députée de Verchères pour la Coalition Avenir Québec, Mme Suzanne Roy. Mme Roy, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui à l'émission.
Bien, merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Madame Roy, on a reçu Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications, tout à l'heure, qui appuie Christine Fréchette. De votre côté, vous avez décidé d'appuyer Simon Jolin Barrette. Pourquoi prendre cette décision alors que M. Jolin Barrette ne s'est même pas encore présenté officiellement?
Bien, aucun des candidats s'est présenté encore officiellement.
En
mais effectivement, on veut les inviter à se présenter. Et moi, particulièrement, j'invite Simon à se présenter pour la course à la chefferie parce que je pense que ça ferait un excellent premier ministre. D'abord, il incarne très bien la troisième voie. Il travaille dans la coalition depuis de très nombreuses années. Donc, il comprend effectivement tout ce que ça demande de conciliation, de travail. C'est une coalition. La CAQ, alors c'est important. Mais je vous dirais par-dessus tout où ça m'a amené ma réflexion pour me dire il faut que Simon y aille. C'est en regardant tous les projets, toutes les lois qu'il a fait adopter dans les quatre dernières années. Bien sûr, au niveau de la laïcité, au niveau de la défense de la langue française, je pense à la réforme du droit de la famille. Ça fait des décennies qu'il n'y a aucun ministre qui a osé se mouiller, justement, pour faire une réforme du droit de la famille. Simon a osé le faire. Tout le règlement sur les pourboires, sur les images intimes, toutes les actions aussi au niveau de l'IVAC. Alors, je trouve qu'il y a, puis là, j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Quand on voit les actions qu'il met en place pour, justement, s'assurer de bien soutenir les gens, et tout ça, ça coûtait pas des millions, bien au contraire. Alors, je trouve que c'est justement ce pragmatisme-là qu'on a besoin aussi pour nous porter vers l'avenir.
Quand on se positionne en faveur d'un candidat ou d'un autre, quand il s'est pas présenté officiellement, probablement que c'est parce qu'il va le faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sinon, on n'irait pas avec une présentation d'un collègue si c'est finalement pas le cas et qu'on devra être derrière un autre collègue. Non?
Ben, en tout cas, on l'espère. Moi, pour ma part, je pense que je l'ai signifié à Simon lui-même en lui disant « Je pense, Simon, que ça serait important que tu te présentes. »
Il a répondu la bonne quoi à ça?
Ben, il réfléchit, il regarde, et puis je pense que c'est intéressant qu'il le fasse. On n'a pas encore les règles, c'est pour ça qu'on n'a probablement aucun candidat encore qui a annoncé officiellement sa venue dans la course au leadership. Mais je pense aussi, pour moi, c'est important de le faire. Un, pour l'inciter, lui, à se présenter, puis pour mentionner aussi aux autres collègues de la CAQ, de dire, regardez, on a là un excellent candidat qu'on pourrait appuyer, il nous ferait un bon premier ministre, puis pourrait nous amener aux prochaines élections.
On se posait une question, mon collègue Jean-François et moi. La course à la chefferie, ça divise hein, dans un parti, dans le sens où tout le monde doit se prononcer pour l'un ou l'autre, puis on doit continuer de travailler en équipe. Il faut faire un acte de foi au niveau professionnel, dans le sens où après ça, tout le monde revient et on va de l'avant. Mais la CAQ est en division depuis un bout déjà, du moins de ce que nous, on observe, là, avec un pas de recul. Les matelots quittent le bateau, la stratégie est un peu perdue au niveau de tout cela. François Legault, on aurait pensé qu'il allait rester. Il le disait avant Noël. Bon, c'est pas le cas. Mais il n'y a pas de dauphin, dauphine qui est préétabli, sur lequel on a vu que M. Legault mettait son énergie. Comment est-ce qu'on peut penser que la CAQ pourrait survivre à ça? Parce que ça reste complexe, là.
Oui, mais en même temps, je vous dirais que c'est une question de respect. Moi, je trouve intéressant que le chef, justement, ne nous dise pas comment penser, pour qui voter et puis qui choisir. Alors ça, je pense que M. Legault l'a très bien fait et il l'a fait de façon la plus respectueuse. Alors maintenant, ça va appartenir aux membres de la CAQ de choisir justement son chef. C'est vrai qu'il y a des risques dans une course à la chefferie, on dit, où ça peut diviser, mais en même temps, je trouve que c'est un moment par excellence pour amener des idées qui vont être porteuses pour l'avenir, pour voir justement ce que chaque candidat a à offrir. Alors, c'est important de prendre ce temps-là à l'intérieur d'un parti. Puis je vous dirais, à la coalition Avenir Québec, avec le nom qu'on a, effectivement, c'est une coalition. On travaille déjà depuis de nombreuses années avec cet équilibre-là de respecter les uns et les autres dans leur approche, en ayant des points très communs, par exemple l'économie, le nationalisme, la défense de la langue, la laïcité.
Mais ça n'aurait pas été aidé, en fait, le parti à survivre puis à bien se mettre sur les rails, d'avoir justement cette façon d'être rallié, d'avoir un nom prêt et d'aller vers l'avant au lieu de revenir dans un genre de division où tout le monde doit se prononcer?
Non, je pense qu'une course, c'est sain. Puis ça permet justement ce débat d'idées à l'intérieur d'un parti politique. Et nos membres souhaitent pouvoir justement évaluer les candidats, choisir celui, j'espère dans mon cas, dans le cas de Simon, s'il décide d'y aller, de choisir quelqu'un qui va porter leurs idées, qui va respecter aussi ce qu'est la CAQ, un parti nationaliste, un parti versé vers l'économie. Ce sont des éléments qui demeurent profondément dans notre ADN.
Pour rappel, on parle avec Suzanne Roy, députée de Verchères pour la coalition Avenir Québec. Madame Roy, après 16 ans comme mairesse de Sainte-Julie et maintenant plusieurs années comme députée à la CAQ, vous avez décidé de quitter le monde politique. Est-ce que vous avez hésité justement à prendre parti pour un candidat à la chefferie compte tenu que vous allez quitter le monde politique à la fin de votre mandat?
Oui, mais je reste une militante. Je vais rester impliquée. Alors, je m'en vais à la retraite. Alors, j'aurai justement du temps pour m'impliquer auprès d'organismes communautaires, auprès surtout de ma famille, de mes petits-enfants, mais j'aurai aussi du temps pour m'impliquer. Donc, je pense, comme je me suis toujours sentie concernée par la chose publique, je trouvais qu'à ce moment-ci, un moment qui est important pour la coalition Avenir Québec, François Legault était le fondateur de la CAQ. Alors, je pense que cette transition qu'on doit faire vers la CAQ de l'avenir, je pense qu'elle doit se faire en douceur et en tout respect. Alors, si je peux y contribuer à ma façon, alors ce sera là aussi pour l'avenir, pour ceux qui nous suivront.
En terminant, je me permets de vous ramener dans le présent. Est-ce que vous voulez commenter les départs de Mme Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel qui se sont fait 24 heures d'intervalle? C'est deux lourdes pertes pour la Coalition Avenir Québec.
Tout à fait. Ce sont deux femmes que j'estime beaucoup qui ont fait toutes deux. Je pense qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup pour le service public. Et c'est normal un peu qu'on fasse cet exercice-là à quelques mois d'une campagne électorale. Moi, je l'ai fait au mois de juillet. La situation là se présente et que Geneviève et que Sonia se posent la question si elles avaient le désir de continuer encore à politique à ce moment-ci de leur vie. Alors, mais tout ce qu'on peut leur dire, dans un cas comme dans l'autre, moi, ça a été des collègues que j'apprécie grandement. Je vais profiter des prochains mois en leur compagnie et je pense qu'on va les revoir et qu'ils vont continuer à contribuer à notre société.
Suzanne Roy est députée de Verchères pour la Coalition Avenir Québec. On vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris pour notre émission et on vous souhaite une belle dernière année en politique, Mme Roy. C'est bien mérité votre retraite.
Ah, ben merci beaucoup, c'est bien gentil, puis merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir, merci Mme Roy, au plaisir de se reparler. Au revoir. Alors, on le voit du côté de la CAQ. Les gens partent, Pascal CV, avec justement Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel. On dit que la politique est une véritable drogue. On se crée aussi une famille en politique. Ça va être très émotif cette dernière année-là, j'ai l'impression, au niveau de la Coalition Avenir Québec.
Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on survit, à comment ça a été monté, mais surtout comment ça a été finalisé. L'œuvre de François Legault, là, il y aurait des rumeurs comme quoi Bernard Drainville réfléchirait à son avenir aussi. Je pense qu'il te faut des piliers sains, des piliers forts qui tressent au sein d'une équipe pour représenter encore cette équipe-là.
Ouais.
En ce moment, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont partis, comme on a dit, mais il y en a aussi plusieurs qui ont été entachés, en plus du parti, en plus de ne pas avoir travaillé pour la relève. On s'entend qu'on parle à des gens qui sont encore au sein du parti.
Ouais, ouais.
Quand on pose la question, ça aurait pas été mieux d'avoir un nom, puis qu'on avance tout le monde ensemble, puis que ce soit des genres de débats, qu'on est ensemble à porte close en disant « c'est qui le prochain? » Est-ce que François Legault a encore travaillé seul là-dessus? Y a-t-il encore parlé de sa réflexion à simplement lui-même lors de ses marches hivernales?
Ses marches dans la neige!
Oui, il en a vraiment parlé à son monde. Puis parce que j'ai l'impression d'être la seule, à moins que Jeff, tu me suives dans mon idéologie, mais j'ai vraiment l'impression d'être la seule de me dire « wow, en ce moment, il faut être tissé serré, faut garder le cap puis regarder vers l'avant et non... prendre un pas d'arrêt puis commencer à rebrasser les cartes au niveau de la carte de la CAQ pour être capable d'être prêt pour les prochaines élections. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On s'arrête, on fait un remaniement, on voit c'est qui à la chefferie, blablabla, course à la chefferie. T'sais, on n'avance pas, on regarde pas vers l'avant.
Oui, je te dirais que la CAQ va toujours rester une bibitte spéciale politique, et je m'explique. C'est François Legault qui l'a créé lui-même. Puis François Legault, il a cru jusqu'à la fin d'être capable de sauver le propre parti qu'il l'a créé. Alors, je pense que ça explique beaucoup le fossé qu'il y a entre le chef.
C'est une erreur pour moi.
C'est une erreur. Ah oui, c'est carrément une erreur.
Il a travaillé sa CAQ comme il aurait pu travailler d'entreprise privée.
Non, en effet, t'as entièrement raison. C'est carrément une erreur de sa part. Et puis, ben, pas pour rien que la CAQ, à l'heure actuelle, on se demande si elle va survivre malgré le fait qu'elle ait cette troisième voie là, tant souhaitée par plusieurs. On fait une courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Par la suite, Pascal, ça bouge, ça a brassé dans la NFL en fin de semaine.
Gros week-end exceptionnel.
Gros match. Les Bills de Buffalo ont été éliminés. Puis on dit à leur coach aujourd'hui, dehors Sean McDermott, on va aller avec quelqu'un d'autre. On parle de tout ça avec le journaliste au 99.5 Montréal, Alex Laramie. Après cette courte pause, on va jaser de sport, Pascal. On te remet à jour sur le sport et sur le Canadien de Montréal. Émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission du midi suit à l'instant même, 14h, Denis Gravel, Véro Bergeron, Audrey Pinchot, le retour de Gravel. Évidemment, on va revenir sur ces deux démissions, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel, qui quittent la CAQ. Donc, c'est clair que Denis, Véro et Audrey vont vous parler de ceci. Marceau ce soir avec Marc Bellemare ce soir. Manquez pas ça, 18h. Ça va être intéressant avec tout ce qui se trame en politique provinciale à l'heure actuelle. Marc Bellemare est un excellent intervenant. Et on reprend la programmation régulière avec Marceau le matin dès 6h et le point de max à 10h avant l'émission. On en jase. Pascal, j'en ai parlé avant la pause. Ça a brassé pas à peu près dans le sport en fin de semaine. Canadien de Montréal qui joue un gros match à Ottawa. On les aurait cru à domicile tellement il y avait de partisans du Canadien dans les estrades aux Sénateurs. 4 gros matchs dans la NFL, dont 2 qui se sont soldés en prolongation. Et pour en parler, on va rejoindre de ce pas le journaliste au 99.5 Montréal que vous pouvez entendre également. Il fait sport dans le retour à Boulevard 102.1. Alex Laramie, comment ça va, Alex?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Gros week-end de sport, mon ami. C'est le fun, ça!
Ah, on en prendrait plus souvent des week-ends de sport de même. Tu l'as dit d'emblée, ça commençait avec le Canadien. 6-5.
Un match qu'on ne méritait pas, mais le Canadien de Montréal est rendu cette équipe, Alex. Cette équipe qui est capable d'aller chercher des victoires de cette façon, à l'arracher. V'là 2 ans, c'est un match carrément que le Canadien perd. C'est pour ça que je dis que le Canadien est rendu dans l'élite de la Ligue nationale.
Oui, ben c'est un bon point. On a deux choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Oui, le Canadien a fait une super belle remontée, mais des remontées comme ça en troisième période, éventuellement, ça ne fonctionnera pas. Le Canadien gagne aussi beaucoup de matchs en prolongation. À 3-3, on est dans les meilleures équipes de la Ligue. Mm-hmm. Une fois qu'on va être rendu en éliminatoire, Et il n'y en a pas de 3 contre 3. Il va falloir trouver des manières de marquer à 5 contre 5. C'est un peu là où le bas blesse pour le Canadien, mais c'est sûr, ça fait des matchs spectaculaires pour les partisans, puis on est tous contents de voir ça. On va se le dire.
Tu as tellement raison, parce que pour l'expliquer à nos auditeurs et à Pascal, qui s'attarde au hockey de plus en plus, dans la saison régulière, les périodes de prolongation, Pascal se joue à 3 joueurs contre 3 joueurs de chaque côté. Normalement, c'est 5 joueurs contre 5. Mais en séries éliminatoires, ça reste du 5 contre 5. Alors, si le Canadien ne règle pas son problème à 5 contre 5, Alex, on pourrait peut-être avoir une élimination prématurée.
Ouais, et puis une autre tangente qu'on a vue aussi samedi, c'est le côté physique. Hein? Les Sénateurs étaient très physiques, puis on sent que les Canadiens, de ce côté-là, c'est pas une de nos forces. On se fait un petit peu déclasser, c'est ce qu'on a vu contre Washington en série. Donc, moi, c'est 2 points quand même. T'sais, c'est sûr que le Canadien va bien, on est content, mais s'il y a 2 points que j'aimerais que le Canadien adresse d'ici la fin de la saison, c'est définitivement le côté physique et on doit trouver des manières de marquer plus régulièrement à 5 contre 5. Là, c'est sûr qu'il y a des blessés qui vont revenir. Kirby Dach pourrait revenir demain. Martin Saint-Louis l'a confirmé. Patrick Laine, on le voit patiner. À l'entraînement, il semble prêt à revenir, mais on n'a pas de nouvelles de son côté. Mais au moins Kirby Dach, ça devrait être un bon ajout pour le Canadien. Patrick Laine, j'ai mes réserves. Mais Kirby Dach, ça va faire du bien de le revoir.
Et Dach qui a pratiqué aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caulfield. NFL, Alex, 4 matchs de séries éliminatoires. On commence avec le premier. Défaite en prolongation des Bills de Buffalo, 33-30. Sur un jeu controversé, cette longue passe à Brandon Cook, Finalement, Cook tombe avec le ballon au sol. Le joueur des Broncos réussit à lui arracher le ballon. On déclare l'interception. Je te pose la question, est-ce que les Bills se sont fait voler cette victoire-là?
À mon avis, non. Parce que même si, quand j'ai vu le jeu, pour moi, c'était un attrapé. Je veux dire, le gars l'attrape, tombe au sol, se fait toucher. Mais ça reste qu'il doit survivre à l'attraper au sol. Il se fait voler le ballon. Moi, de ce que j'ai vu, selon les règlements, selon l'interprétation en fait qu'on fait des règlements, c'est une interception. Moi, je trouve pas que les Bills se sont fait voler parce que tu peux pas gagner un match si Josh Allen fait 2 échappées, 2 interceptions. Pour moi, le match s'est joué en première demi. À la fin de la première demi, les Bills échappent le ballon. Les Broncos vont aller marquer 3 points de plus. C'est 10 points d'écart. Si les Bills allaient marquer un touché, c'est 7 points de plus. La partie est complètement différente. Finalement, on a joué du football de rattrapage. On a fait des revirements. Puis c'est ça, pour moi, qui a coûté le match aux Bills. Et finalement, qui a coûté la job aussi à l'entraîneur Sean McDermott, qui a été congédié aujourd'hui.
Es-tu surpris de ça, d'avoir Sean McDermott être congédié après plusieurs bonnes saisons à Buffalo? Là, ça fait 8 ans consécutifs qu'on est en série là-bas.
Je suis pas surpris, mais pour moi, c'est une mauvaise décision. On en entendait parler. Si les Bills étaient éliminés au premier tour, il allait le congédier. Mais pour moi, je regarde les candidats qui sont là. À part Mike Tomlin, je vois pas de meilleur coach que Sean McDermott qui sont disponibles. Stefanski a signé avec Atlanta plus tôt en fin de semaine. Mm-hmm. Donc,
c'est drôle que tu dises ça parce que plusieurs disent « Ah, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le choix ». Fait que c'est vraiment deux façons de voir les choses là, qui s'affrontent en ce moment.
Ben exact. Ceux qui disent ça, je comprends. Ça fait 9 ans qu'on essaie avec McDermott. On n'a même pas réussi à se rendre au moins un Super Bowl. C'est une manière de voir les choses. Mais moi, je regarde la partie d'hier. Selon moi, c'est pas le travail de Sean McDermott qui est à remettre en question. Il a appelé les bons jeux. Son équipe était préparée. Selon moi, c'est Josh Allen qui doit un peu se regarder dans le miroir. La défense des Bills aussi n'a pas fait le travail. C'est Sean McDermott qui est cop. Les coachs, on sait, c'est toujours plus facile à congédier que changer tous les joueurs.
Exactement. D'ailleurs, tu iras voir la conférence de presse de Josh Allen, Pascal, sur les médias sociaux. Pleure sa vie devant les médias parce qu'il a fait 4 revirements. On passe rapidement. Seattle qui a battu facilement San Francisco 41-6. On s'en va à Boston en Nouvelle-Angleterre. Ouf, c'est un match qui va laisser des traces à CJ Stroud. Ça, 5 revirements. Les Pats qui se sauvent avec une victoire.
Ah, c'était pas chic. C'était pas chic pour CJ Stroud. Il a été malmené. Cette partie-là, selon moi, c'est vraiment joué sur la ligne de mêlée. Les Pats ont été complètement capables de neutraliser le jeu au sol. Puis on a vu quand CJ Stroud doit lancer le ballon un petit peu trop souvent, se met à faire des erreurs. On jouait dans le froid et les receveurs qui échappaient des passes, ça avait aucun bon sens. Les Pats l'ont pas volé, selon moi, celle-là, mais ils ont eu beaucoup d'aide de CJ Stroud puis des Texans qui ont vraiment pas joué leur meilleur football en fin de semaine.
Chapeau quand même à l'entraîneur Mike Vrabel qui est arrivé cette année avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a pris une équipe de 4 victoires et 13 revers. Il en a gagné 13 en saison régulière et là, il se rend finale de conférence contre les Broncos de Denver. Donc, tout un travail pour l'ancien entraîneur des Titans du Tennessee. On termine avec, moi, le match qui m'a le plus excité dans la fin de semaine. Rams de Los Angeles contre les Bears de Chicago. As-tu déjà vu quelqu'un comme Caleb Williams être capable de reculer sur 30 verges, sur le pied arrière, lancer une passe de 40 verges sur le dernier jeu du match à son ailier rapproché Cole Kmet qui marque pour égaler le pointage. Ça sortait carrément de l'ordinaire, ce jeu-là.
Ah, je l'ai vu de mes propres yeux, puis je croyais pas ce que je venais de voir.
Moi non plus.
Honnêtement, t'avais trois ailiers défensifs des Rams qui fonçaient vers Caleb Williams. Ça sentait la passe qui allait se faire intercepter ou tout simplement qu'il n'allait même pas se rendre en zone début. Finalement, réussit à décocher la passe. Puis son receveur, il est tout seul dans la zone. Les deux corners sont complètement pas là. Non, c'est un scénario de film. Mais on sent que ce genre de jeu-là, ça finit par te rattraper. On parlait du Canadien.
Exactement.
On est arrivé en prolongation. On a fait une passe désespérée. Finalement, là, ça a été intercepté. Puis c'est ça qui a coûté le match aux Bears. Mais ceci dit, très bonne première saison pour Ben Johnson à la barre des Bears. Selon moi, ce club-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais il va falloir un peu nettoyer quelques petits trucs dans leur jeu parce qu'on pourra pas gagner des matchs comme ça.
Non, parce qu'on a gagné
spectaculaire.
On a gagné 8 matchs cette année avec des remontées au quatrième quart. Donc, à un moment donné, ça peut justement rattraper. Puis, quand on fait face à un corps arrière vétéran comme Matthew Stafford, un entraîneur vétéran comme Sean McVay, mais à un moment donné, ça t'a rattrapé. C'est ce qui est arrivé. On termine là-dessus, Alex, mais Matthew Stafford, on va devoir le considérer comme un des bons corps dans l'histoire de la NFL. Quand c'est le temps de gagner un match, il devient sensationnel.
Ben, c'est un des meilleurs passeurs de sa génération. On a vu un peu dans l'autre génération, il y avait les Drew Brees, on a vu Tom Brady, on a vu toute cette génération-là, Manning, mais il faut mettre un peu de respect sur Stafford qui va se ramasser définitivement au temps de la renommée. Déjà un Super Bowl, à mon avis, s'en va pour son deuxième. Le chemin semble s'ouvrir. Sûr que Seattle, ce ne sera pas facile. Mais moi, j'ai mis les Rams au Super Bowl. Je vais continuer là-dessus. Selon moi, c'est la meilleure équipe. Leur attaque est bien rodée en défense. On a toute une ligne défensive. Très impressionné.
Très d'accord. Alex Laramie, on se fait une promesse. On se parle vendredi pour faire nos prédictions pour les matchs de la ronde 3 dans la NFL. Ça te va?
Ah, toujours un plaisir de collaborer avec vous autres.
Excellent. On se parle vendredi, Alex. Salut, merci beaucoup.
Merci.
Alex Laramie, excellent journaliste sur les ondes du 99.5 Montréal. Et vous entendez également dans les sports dans le retour.
En terminant l'émission, Jeff, je dois dire que Bernard Drainville a fait un message public, en fait, sur ses réseaux sociaux. Je te le lis. Depuis quelques jours, je suis en réflexion quant à la suite des choses à une éventuelle participation à la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Une chose est certaine, la CAQ doit rester fidèle à ses racines. Un parti proche des régions qui défend leurs intérêts, un parti réformateur de centre-droit, nationaliste, économique. Nous devons rester profondément connectés à ce qui vient et ce que vivent les Québécois au quotidien. Le coût de la vie, le pouvoir d'achat des familles, l'économie, le travail. Et nous devons continuer de rêver grand pour un Québec francophone confiant, fidèle à ses valeurs. C'est essentiel pour l'avenir de notre famille politique, c'est essentiel pour l'avenir du Québec. Il me semblerait que c'est une grande porte ouverte, ce genre de message-là. Il n'y a pas grand-chose qui nous confirmerait ou nous infirmerait une potentielle confirmation, justement, sur le fait qu'il se présenterait à la course à la chefferie. Mais je te dirais que c'est un message quand même qui s'en va dans ce sens.
C'est un message très porteur d'espoir, je vais le dire de cette façon. Et Anthony Gnaccherini, que vous entendez dans le caucus, mais elle va être dans Gravel dans le retour à 17h. Fait que j'ai l'impression qu'elle va analyser ça pas mal de la même façon que moi et toi, Pascal Cévé.
Et les commentaires sous la publication sont fort intéressants sur sa page Facebook.
Alors, allez voir ça. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant. Marc Bellemare avec Marceau dans Marceau le soir à 18h. Nous, on se reparle à midi pour l'émission On en jase. Demain, Pascal Cévé, très content d'avoir salué ton retour.
Ben, merci beaucoup, Jeff. Très content d'être venu.
Fait plaisir. Restez les nôtres. C'est le retour de Gravel qui s'en vient. On en jase.